Le quart d'heure corésien, l'émission d'information hebdomadaire de Bram FM et RGB.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 14e numéro du quart d'heure corésien. Thomas Vandendrich, bonjour.
Bonjour Olivier Serac.
Au sommaire cette semaine, comment se gèrent les espaces forestiers dans le département? À l'heure où les coupes rases font polémique, nous essayons de comprendre comment les professionnels gèrent ce secteur, mais surtout comment ils envisagent l'avenir entre économie et écologie. Besnac doit voir arriver un CADA, un centre d'accueil de demandeurs d'asile, d'ici le mois d'avril. Et après des semaines de mobilisation des extrêmes droites, la préfecture de la Corrèze tenait jeudi soir une réunion d'information dans la commune. Nous faisons le point sur la situation. Enfin, il a permis de voir sur grand écran les premiers films de Sébastien Bailly ou encore Catel qui les verrait. Le 20e festival du moyen-métrage de Brive se prépare. Il aura lieu du 3 au 8 avril prochain. Et nous vous en dévoilons le programme cette semaine. Le quart d'heure corrézien, vous avez le menu, c'est parti. Nous vous parlons depuis le début de l'année de la tension qui règne à Tarnac au niveau du bois du chat. Tension causée par un projet de coupe rase d'un bois par son propriétaire et qui suscite la colère d'un comité d'opposants. Alors sans forcément prendre le cas particulier du bois du chat, Thomas, vous avez cherché à comprendre comment sont gérés les espaces forestiers en Corrèze, mais surtout à savoir ce qu'on reproche aussi à ces fameuses coupes rases.
Eh bien nous sommes allés poser la question à Étienne Roger. Installé à Tulle, il est expert forestier. Grosso modo, il joue le rôle de conseiller auprès des propriétaires et des exploitants forestiers. Et comme il nous l'explique, la coupe rase pose avant tout des problèmes sérieux sur la viabilité des écosystèmes.
On coupe tout et on repart pour un tour. Dans le cycle, je plante, je regarde pousser, j'éclaircis, et puis au bout de 50 ans, je coupe tout et je recommence. D'abord, il y a le fait qu'on a un sol qui est brutalement mis en lumière. On va avoir une perturbation assez forte du fonctionnement biologique du sol. Or, le sol, c'est la matrice sur laquelle se développe la forêt. Si le sol est perturbé, la forêt le sera aussi. Après la coupe rase, on est souvent obligé de passer par cette étape de plantation qui est une étape de grande vulnérabilité. Et puis, il y a les impacts aussi paysagers. Je pense que c'est les principaux reproches qui sont faits à la coupe rase.
Un procédé mis en place il y a plus de 50 ans, procédé que l'expert forestier juge à l'heure actuelle dépassé.
Le problème, c'est que les conditions ne sont pas du tout les mêmes qu'il y a 50 ans. Le coût de la main-d'œuvre est bien plus élevé, donc le coût des plantations est plus élevé, notamment. Et puis les risques aussi sont bien plus élevés. Il y a 50 ans, on n'avait pas autant de chevreuils, on en avait 10 ou 20 fois moins. Il n'y avait pas les insectes, un certain nombre d'insectes qui aujourd'hui abîment les jeunes plantations. Et puis on n'avait pas aussi le même contexte climatique avec ces sécheresses très importantes qu'on connaît. Il faut savoir que par exemple l'année 2022 a été la pire année en termes de plantation depuis au moins 15 ans.
Et qui dit remise en question dit chercher des solutions. Étienne Roger, lui, a fait le choix d'une sylviculture plus raisonnée.
Dans la sylviculture que moi, désormais, je m'efforce de pratiquer, qu'on appelle la sylviculture irrégulière ou encore la sylviculture mélangée à couvert continu, ce qu'on va s'efforcer d'obtenir, c'est d'avoir sur la même parcelle des arbres de toutes les dimensions, de tous les âges, si possible avec un certain mélange d'essence. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un renouvellement progressif, continu. On va récolter les plus vieux bois, ça va faire des taches de lumière dans lesquelles les semis naturels vont pouvoir s'installer. Bon, s'ils ne s'installent pas, on va compléter avec de la plantation. Mais on va progressivement amorcer un cycle où les choses vont se faire en douceur, progressivement, par petites touches, par petites tâches, sans perturbation brutale du milieu.
Optimiste, l'expert forestier constate une attention grandissante du public sur la question, mais aussi un changement des mentalités de la part des acteurs principaux de la filière.
Il y a quand même un intérêt de plus en plus marqué aussi des propriétaires forestiers qui se rendent compte que le modèle, on va dire, intensif peut conduire à des impasses. Et il y a un intérêt aussi pour faire quelque chose qui soit un petit peu plus valorisant, qui valorise le travail du sylviculteur, le fait de pouvoir justement diversifier les fonctions de la forêt qui n'est pas que juste une usine à bois.
Une valorisation qui passe notamment par la préservation des milieux, c'est le travail de Jean-Philippe Castaigneau. Il travaille à l'ONF, l'Office National des Forêts. L'ONF gère les forêts publiques, ce qui représente 5% de la surface boisée du département. Et eux aussi sont amenés à pratiquer des coupes rases, mais sans logique de rentabilité.
Ça peut nous arriver de faire des coupes rases quand on est confronté en ce moment à des problèmes sanitaires particuliers, donc sur les dépérissements, on a toute une zone qui va dépérir de façon rapide pour éviter que la maladie ou le dépérissement ne se propage trop vite et pour mettre à la place de ces essences, d'autres essences mieux adaptées.
Le milieu sylvicole est donc en pleine mutation. Que ce soit dans le domaine privé ou public, il est urgent de repenser la gestion de nos forêts.
Merci Thomas. Et au bois du chat à Tarnac, opposants et propriétaires se sont rencontrés la semaine dernière. Mais pour l'instant, si le dialogue est engagé, certes, chacune des deux parties campe sur ses positions.
Vous écoutez le quart d'heure corrézien sur Bram FM et RGB.
Mois après mois, les contours du prochain centre d'accueil de demandeurs d'asile de Besnac vers Pompadour s'affinent. Un CADA, objet de vives polémiques et alimenté par les extrêmes droites, Olivier. Et jeudi soir, justement, pour tenter de calmer les esprits, la préfecture s'est invitée à Besnac afin de préciser les enjeux de ce CADA.
Et si l'enjeu était de rassurer, à l'issue d'une réunion de plus de 2 heures, cette habitante de Besnac, membre d'un collectif baptisé Sauvons Besnac, est déçue.
Le problème de ce CADA, c'est l'incohérence et l'utopie. On est quand même en race campagne. Mis à part des pommiers et des vaches, il n'y a rien. On est à plus de 6 km du premier grande surface. Pas d'administratif avant Objat, voire Brive. On a entendu que les services hospitaliers seraient de Brive. Donc on est quand même à plusieurs centaines de kilomètres de Brive. Aujourd'hui, l'ensemble des habitants ne bénéficient pas de ce service. On est sur une population âgée qui n'a pas la possibilité d'aller à l'hôpital de Brive sans avoir des enfants, des petits-enfants à proximité pour l'y emmener. On est quand même dans un fossé social entre les belles paroles de monsieur le préfet et de l'association et la réalité du terrain.
Mais d'autres, à l'instar d'Alain, ne partagent pas du tout le même avis.
Je suis ni pour ni contre. Je demande à voir ce qui va se passer. J'ai l'habitude de prendre des Polonais pour cueillir les pommes. Donc c'est forcément des étrangers. Et mais je m'en trouve très bien. Si c'est des Afghans qui viennent, pourquoi pas? Moi, j'embauche tous ceux qui veulent travailler, c'est tout. S'ils foutent pas le bordel, c'est impeccable. Après, je m'en fous d'où ils viennent.
Quant à Karine, qui vit à Pompadour, soit à 6 km de Besnac, ce CADA est une bonne idée, mais les tensions actuelles l'inquiètent.
Je trouve que ça ferait du bien, mais c'est vrai que je suis inquiète de voir les personnes qui habitent autour manifester autant d'agressivité, de mécontentement. C'est pas accueillant du tout pour moi et c'est dommage. Ça donne pas une bonne image de Besnac, mais en même temps, là, on peut constater que c'est la réalité. Il y a ici à Besnac le pont La Vera où des maquisards se sont fait fusiller. Les habitants de Besnac, je ne comprends pas qu'ils ne comprennent pas qu'on doive accueillir des gens qui risquent leur vie dans leur pays.
Hier soir, face à 150 personnes de Besnac et ses alentours, le préfet Étienne Desplanques a affirmé sa décision.
On a besoin d'accueillir des demandeurs d'asile pendant l'examen de leur demande d'asile. Je rappelle qu'en France, un demandeur d'asile sur deux n'est pas hébergé. Il n'est pas hébergé parce qu'on n'arrive pas à les héberger. Résultat, vous avez des campements à travers toute la France. C'est des situations qui sont déplorables, avec des enfants dans des conditions indignes de la France. Et c'est donc naturel qu'on fasse des efforts pour se remettre à niveau.
Un préfet reparti sous les huées des opposants et les applaudissements de ceux qui sont favorables au CADA, laissant Besnac totalement divisé sur la question.
Et début avril, les premiers demandeurs d'asile devraient être accompagnés par l'association Viltaïs à Besnac.
Le quart d'heure corrézien est à retrouver aussi sur bramfm.com et rgb-radio.net.
En bref, alors que le gouvernement a décidé d'utiliser l'article 49-3 de la Constitution pour pouvoir appliquer la loi sur la réforme des retraites, la colère est montée d'un cran en Corrèze. Jeudi soir, une délégation de l'intersyndicale corrézienne a été reçue par le maire Les Républicains, Frédéric Soulier, à Brive. Délégation reçue également en sous-préfecture, là aussi à Brive. Une centaine de personnes se sont même retrouvées sur la place de la Guerre le jeudi soir jusque tard dans la nuit. Mobilisation aussi devant la permanence du groupe Les Républicains de la Corrèze à Tulle. Des nouvelles manifestations sont aussi prévues ce week-end à Brive, Tulle et Ussel. Et dès le début de semaine prochaine, l'intersyndicale ne compte pas baisser les bras. Des actions coup de poing sont prévues dès lundi matin de bonne heure. Une intersyndicale qui reste unie pour l'instant et surtout déterminée à continuer le combat contre cette réforme. Certains syndicalistes se disent même choqués par l'attitude du passage en force du gouvernement. D'autres manifestants que nous avons pu joindre s'estiment quant à eux trahi, alors que l'exécutif répétait depuis lundi dernier qu'il ne souhaitait pas de passage en force au Parlement en utilisant ce fameux article 49.3. En Corrèze, le député LR de la circonscription Tulle-Ussel, Francis Dubois, avait assuré qu'il voterait contre la réforme. Frédéric Meunier, pour la circonscription de Brive, avait annoncé, elle, qu'elle s'abstiendrait. En cette fin de semaine, les deux députés restaient réservés quant à la signature d'une motion de censure contre le gouvernement. Francis Dubois indiquant même à nos confrères de France Bleu Limousin qu'il ne soutiendrait pas de motion émanant de la NUPES ou du Rassemblement National.
Vous écoutez le quart d'heure corrézien sur Bram FM et RGB.
Le 20e festival de cinéma du moyen-métrage de Brive ouvrira ses portes dans un peu plus de 15 jours. Ce festival se déroulera du 3 au 8 avril prochain. Un festival particulier puisque depuis 19 ans maintenant, il met à l'honneur ses films ni longs ni courts, mais donc de moyen-métrage, c'est-à-dire qu'ils durent entre une demi-heure et une heure. Et cette année, Olivier, les organisateurs ont dû choisir parmi 650 films venus du monde entier pour faire leur programmation.
Seuls 20 films sont retenus pour la compétition officielle, la moitié sont français et parmi les 10 autres, 2 films américains, 2 japonais, 2 suisses mais aussi un espagnol, un belge, un russe et un indien. Mais tous ont un point commun, un retour à l'essentiel du cinéma, à savoir un lieu clairement identifié, qu'il soit réel ou imaginaire. Et ce n'est pas tout, comme l'explique Giulio Casadei, le directeur artistique du Festival du cinéma de Brive.
Toujours peu de personnages qui se retrouvent face soit à une confrontation entre eux, soit les deux ensemble dans une confrontation envers le monde extérieur.
Et cette sélection n'a qu'un objectif, chercher à attiser la curiosité des spectateurs.
Il n'y a pas un enfermement dans une espèce de pureté artistique. Je le dis dans le sens que, certes, on choisit toujours des films qu'on aime, mais on sait aussi qu'en programmant 6 films par jour, il faut aussi trouver une harmonie et une espèce de, je dirais, de rythme même musical. On ne peut pas programmer 20 films en plan fixe, sans dialogue, dans le désert. Ce serait ennuyant. S'il y a un film exceptionnel qui a cette proposition-là, bien sûr, on l'a choisi, mais s'il y en a un deuxième, on est obligé de choisir entre les deux. Parce que aussi, je pense qu'une sélection d'un festival, c'est travailler dans les présents et dans les différentes formes du présent. Et on a quand même aussi envie de travailler la notion de différence.
Des choix douloureux, voire difficiles même, mais qui aujourd'hui permettent aussi d'affirmer l'exigence et d'assurer la renommée du festival, insiste Maggie Cisterne. C'est la secrétaire générale du moyen-métrage.
La reconnaissance qu'on a aujourd'hui en France et en Europe du festival où quand on fait un moyen-métrage, il faut être, eh bien, on vise maintenant d'avoir cette même reconnaissance à l'international. Alors, on progresse tout doucement.
Une progression douce, certes, mais qui a offert à ces films ni courts ni longs une nouvelle place dans le paysage cinématographique international.
En Espagne, par exemple, il y a un festival consacré au moyen-métrage. En France, il y a de plus en plus de festivals qui font une section moyen-métrage. Nous, notre objectif, c'est pas d'être les seuls au monde. Notre objectif premier, c'est que les moyens-métrages soient vus. Donc pour nous, plus ils seront vus dans des festivals, dans des salles, etc. Et puis on sera heureux.
Sans oublier non plus qu'à Brive, le lycée d'Arsonval propose une option cinéma audiovisuel depuis 30 ans maintenant. Option permettant de découvrir aussi les autres métiers comme la production, la distribution, mais aussi la prise de son et tant d'autres aspects loin du jeu d'acteur ou de la réalisation.
Et alors du 3 au 8 avril prochain, laissez-vous porter au Cinéma Rex à Brive pour voir et découvrir ces films. Vous avez le droit d'aimer ou pas. D'ailleurs, certains films seront diffusés en présence de leurs auteurs. Tous les rendez-vous du moyen-métrage sont à retrouver sur le site festivalcinemabrive.fr. C'est la fin de ce 14e numéro du quart d'heure corrézien. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro.
Et d'ici là, passez un très bon week-end sur nos ondes, en Corrèze ou ailleurs.
Vous venez d'entendre le quart d'heure corrézien à réécouter sur bramfm.com et rgb-radio.net.